qu'à celui chez qui c'est une vertu d'être humble.
C'est à cause de la hiérarchie.
Hein?
Par exemple.
Mais depuis, je vous donnerai d'ailleurs un exemple dans la liturgie de Rosh Hashanah et de Kippour, mais il faut bien savoir qu'originellement, la liturgie biblique implique l'agenouillement. Et le roi s'agenouillait plus, que le Kohen, parce que le roi était plus puissant politiquement que le Kohen. Mais depuis que nous avons été exilés dans des nations qui ont des rites idolâtres, ça nous est devenu interdit. Mais par exemple, dans le Alim Shabéach du rite Ashkenaz, vous avez la phrase Banachnu Koraim ou Mishtahabim ou Modim. Et les Ashkenazim, pour le Alim Shabéach qu'il y a dans la Tfila de Rosh Hashanah, se mettent à plat ventre. Si vous avez vu dans le Beit Knesset Ashkenaz, le Hazan se met à plat ventre. Même tout le monde?
Oui. Avec le
oui. Tandis que dans le rite Sfardi, c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est la manière des musulmans de prier. Donc que le Hazan le fait symboliquement. Mais normalement, originellement, ça devrait se faire. De la même manière, les invocations, les mains levées, étant donné que les goyim ont pris cela, ça nous est interdit, mais ça reviendra au niveau du temple. C'est la manière réelle des gestes de la prière. Mais là, j'ai compris ton allusion. Puisqu'ils sont appelés Bnei Melachim, donc ils ont le droit de s'agenouiller. Je vais simplement donner une indication sémantique. Le principe qui est enseigné par le Midrash est le suivant. Seul le Hachir peut être Anav. Parce que s'il est Ani, on ne sait pas s'il est Ani ou Anav. Et vous comprenez? Et vous voyez que les mots se ressemblent, Ani, Anav. C'est pourquoi il est conseillé d'être riche pour pouvoir être humble. Ça, les Juifs ont compris là-dessus. Quelqu'un voulait poser une question, je crois. Oui.
De dire au niveau de la prosternation, c'est valable aussi pour le moussaf de Kippour.
Oui. Si, on le fait. Mais vous voyez, c'est une exception. C'est une exception, mais ce qui c'est au moment de Seder HaAvoda, vers Kohanim, vers Ham, et on pose le genou sur terre. Mais on le fait avec gêne, parce que c'est l'inverse. Puisque c'est le moment où on a le droit de le faire, on se défoule. Mais normalement, c'est comme ça qu'on prie. Donc. Alors, nous allons continuer. Zivam ke'en kalal. Zivam, ziv, c'est l'irradiation de splendeur. Ke'en kalal. Comment vous traduire ça en français? Attendez voir, j'ai une traduction sous les yeux, mais je vais essayer de voir si c'est indiqué plus littéralement. Non, c'est pas traduit du tout. Ange resplendissant devant le roi que vous louez. Bon. Ange resplendissant. Alors, je vous dis, qu'est-ce que c'est? El Kalal. Kalal, c'est le reflet du métal. Vous voyez, quand un métal donne un éclat de reflet. Pene Meler Meulal, devant la face du roi loué, eux disent Kadosh. Zera Nevarim. Navar, c'est comme Kadosh. La postérité, c'est allusion toujours aux patriarches, des patriarches qui ont été sanctifiés, les Adir Adirim, s'adressant aux forts des forts, disent Baruch, Hatsuven Gechalim, ceux qui ont été taillés dans les braises, dans les flammes, Hayalim, Hayalim. Hayalim, ici, ça a le sens de. Une armée se divise en cohortes, je ne sais pas comment dire. C'est Hayalim Hayalim, groupe de soldats, disent Kadosh. Hafushim Mikkevel, ceux qui sont délivrés en Chofesh. Mikkevel, Kevel, c'est Kaboul, c'est être enchaîné par des menottes. Ceux qui sont délivrés de servitude, Kruim Nahalat Hevel, et qui ont été. Désignés par le Mikra, qui ont été appelés la corde de l'héritage, c'est-à-dire comme s'il y avait une corde qui nous relie au Créateur et nous sommes son héritage. Hevel Nahalato, la corde de son héritage. Omrim Kadosh, Kadosh Ubaruch, Tevulim Benahar, ceux qui sont plongés dans le fleuve, Demutam Kezoar, et dont l'apparence est comme le resplendissement de la lumière, disent Kadosh, la allusion aux anges, Tevoim, Bebor, Berit, ceux qui sont plongés dans le creuset de purification Bor de l'Alliance, Peletat Asherit, reste du reste, rescapé du reste, Omrim, Barur, disent Barur, Yekarim, Meaofefim, ceux qui sont des messagers glorieux, Behod, Vahege, Metzapsefim, et qui, Metzapsef, ça veut dire qui sifflent, mais dans le sens de qui font éclater la méditation de la louange, Omrim Kadosh, Yechida, Meumot, l'unique parmi les nations, Bechira, Mealamot, la préférée parmi les jeunes femmes, Omrim, ils disent Kadosh Ubarou. Kevire Rouma, les forts des régions supérieures, les Yoshev Shamaima, s'adressant à celui qui réside aux cieux, Omrim Kadosh, disent Kadosh, Kolele Teilot, ce qui récapitule les louanges, les Nora Alilot, à celui qui est le redoutable. Alilot, c'est des. Vous connaissez le mot Alila, comme par exemple dans l'expression Alilat Dam. C'est une prétention, Alila. Disent Baruch, les Nora Aleem, celui qui est redoutable sur eux, Ma'alitzim et Ma'aneem, et qu'ils glorifient dans leurs invocations, Omrim Kadosh, les Hukim Be Geshet, une minute que je vérifie. Je vous avoue que je ne vois pas ce que signifie littéralement.
Les
Hukim. Ah, Nikhalim, très bien. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez? J'ai pas le même texte. Et ensuite, après les Hukim, Bikhalim.
Begeshet,
c'est quoi? Ah, c'est ce mot que je cherche. Donc, Magdishim, Ba'areshet. Areshet, c'est la prononciation des mots. Areshet Sfataim. Omrim Kadosh Ubaur. Et ensuite, vous avez de nouveau la reprise de l'invocation générale. Upren, Ulcha, et c'est à toi, Ta'al et Kedusha, que la sanctification montera, qui atteint au Kenou, car c'est toi qui es notre Dieu. Alors, je vous propose de sauter le paragraphe suivant. Et là, vous avez quatre paragraphes qui se suivent que je vais essayer de vous expliquer. Le premier qui commence par « Hashem Tzvaot, Shem Kevod Malchutecha » est une allusion à Dieu au-delà de toutes les souverainetés intermédiaires qui le relient au monde d'en bas. Vous vous rappelez de ce que le Rabbi Wiener a dit tout à l'heure, qu'il y avait dans le texte biblique l'indication de la cause première et qu'on ne parlait pas des causes secondes intermédiaires. Je pense qu'on peut comprendre cela par l'expression habituelle que Dieu a dit « Melech Malche HaMelachim ». Il est le roi, le souverain des rois des rois. Je répète « Melech Malche HaMelachim ». Le troisième mot « HaMelachim », c'est les rois terrestres. Ils ont eux-mêmes un Melech céleste qui les dirige. Et le Dieu unique est le Melech des Malchés HaMelachim. C'est clair? Vous avez bien compris l'explication? Chaque peuple, chaque nation a un roi terrestre et un roi céleste. C'est ce que, dans le vocabulaire de la tradition, on appelle le sar de chaque nation. Je crois que j'ai trouvé un terme français qui peut-être exprimer l'idée qu'il y a dans le sar. Sar, ça veut dire prince, et ça veut dire aussi l'ange tutélaire du génie de la nation. Alors je crois que c'est le mot génie. Génie, ça veut dire aussi une force, et ça veut dire l'idée de ce que représente chaque manière d'être homme dans son génie propre. Bon, on peut garder peut-être ce terme de génie. Alors là, il y a une description de ces différents niveaux de souveraineté. J'en profite pour vous indiquer une chose. Il arrive très souvent, le vendredi soir, quand j'assiste avec des groupes qui douchent, dans le Shalom Aleichem, Il y a une erreur systématique qui est faite, parce que ce sont des gens qui commencent à apprendre l'hébreu et qui se rappellent des erreurs du commencement de la Vulpanim. J'entends très souvent « Melech Malaché Amelachim » ou « Melech Malaché Amelachim ». Ne pas confondre le mot « Malach » qui signifie « ange » et le mot « Melech » qui signifie « roi ». Alors il s'agit de « Melech Malaché Amelachim » et pas « Amelachim » qui signifierait « les anges ». C'est clair ?« Melech Malaché Amelachim ». Alors, prenez, si vous voulez, le texte qui commence par « Rosh Amemshala Rishona ». Donc, c'est le troisième paragraphe. Rosh Amemshala Rishona, là, il s'agit d'un degré où ce sont les anges qui sont les véhicules de la volonté du Créateur. Ensuite, cela passera au niveau des astres eux-mêmes, des corps célestes, et ensuite des forces terrestres. Alors, nous allons essayer de lire ces trois textes rapidement. Rosh HaMemshala Rishona, le principe, la tête de la souveraineté première, Vechayalehem, et de ses armées, Vechol Tzva HaShamayim Nosekelehem, et de toute l'armée des cieux qui portent leurs outils. Vous savez, le Nosekelim, c'était l'écuyer qui était le chevalier dans la guerre et qui portait ses Kelim, c'est-à-dire ses armes. Shiken Or Olam Alehem, celui qui a institué la lumière du monde sur eux, Vayi Shalom Be'olehem, et il y a eu la paix dans leur tente, dans leur camp. C'est l'idée que les valeurs différentes sont en paix dans les hauteurs, alors que c'est dans les mondes inférieurs qu'elles se contrarient et qu'il y a le conflit des absolus, comme on pourrait dire en langage philosophique, ou ce que les païens, dans leur mythologie, appelaient la guerre des dieux. Ils avaient perçu que ce que nous appelons dans le langage moderne les valeurs était en conflit. Et alors ils décrivaient la guerre des dieux dans la symbolique mythique de leur mythe, mais il me semble que c'est exactement la même idée. Il y a d'ailleurs un midrash très important qui éclaire la différence de sensibilité entre la sensibilité du midrash et celle du mythe. Peut-être que nous reviendrons sur ce problème dans le séminaire sur Hanouka, où nous parlons essentiellement de la différence entre la pensée des Judéens et la culture grecque qui ont été en lutte au temps de commémore Hanouka. Et c'est que, selon le Midrash, les absolus ne sont pas d'accord sur le projet de la création de l'homme, parce qu'ils considèrent que l'homme est le siège de contradiction. Nous étudierons certainement ce Midrash en détail. Alors que précisément dans la pensée du mythe grec, ou du mythe ancien, ou du mythe païen, c'est l'homme qui croit que les absolus sont en contradiction entre eux. Est-ce que vous comprenez suffisamment la différence ? L'opinion des anges sur l'homme, c'est-à-dire des absolus quant à l'identité humaine, c'est que l'homme est un être impossible parce que contradictoire. Alors que dans l'univers de la philosophie, l'homme se croit l'être authentique et il considère que les absolus sont en guerre, d'où le mythe de la guerre des dieux. Voilà à peu près comment on pourrait formuler cette différence. Alors il y a l'expression de cette intuition que dans les hauteurs il y a la paix. Osé shalom imromav, vouya asé shalom alé. Il y a un enseignement important du Maharal qui indique que la paix est une réalité surnaturelle, qu'elle n'est pas co-naturelle à notre monde. Je crois qu'il y a là une vision d'une lucidité absolue que la pensée occidentale moderne avait camouflée. C'est que l'état naturel de la nature, c'est la guerre. Et que la paix est un miracle surnaturel. Est-ce que c'est clair ce que je dis là ? Okay. Et effectivement, il y a deux formes de paix, dit le Maharal. Une paix que j'appellerais plutôt un armistice provisoire. C'est la paix placée. La paix que l'on place comme quelque chose qui est provisoire. Une sorte d'armistice. Vous rappelez quand il y a eu les négociations avec l'Égypte, il y avait énormément de formules qui sont apparues dans les journaux. Il y en a une qui serait à sa place ici, mais elle m'échappe. Vous allez peut-être m'aider à la retrouver. Ilohama, non-belligérance. Hein. On ne fait pas la paix, mais on est en Ilohama. Hein. On sera en non-belligérance. Et alors, il y a dans la prière Sim Shalom. Sim Shalom, ça veut dire place la paix. C'est au moins cette paix qui est à notre portée. Mais à la fin de la Hamida, on dit on sait, Shalom Ivroma, la paix faite. Dans les hauteurs, il y a la paix faite, réelle. Sur terre, elle n'est que provisoire parce que elle n'est pas connaturelle au monde de la nature dans lequel nous sommes. Il y a encore une fois cette perception que la paix est extraordinaire et que par conséquent, il faut avoir la lucidité de ne pas se tromper et de croire qu'un état de guerre réel se fait prendre pour la paix. Il y a un verset qui dit « Ani shalom vechi adaver ema la milchama » un verset des psaumes du roi David qui dit « Ani shalom, je suis paix, vechi adaver » mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. « Ani shalom vechi adaver ema la milchama » Vous savez à quel point nous vivons cela. L'Israélien moyen ne parle que de paix. Mais en face de lui, on ne parle que de guerre. C'est vraiment ce qu'exprime ce verset. Et il y a un enseignement du Rav Nachman de Bratslav qui est très profond et qui dit la seule parole vraie est une parole de paix. Parce que la parole, c'est ce qui exprime la relation dans le fait social, la relation de personne à personne dans la société. Et par conséquent, la parole authentique, c'est la parole de paix. C'est dans la parole que s'exprime la construction du fait de la relation d'autrui à autrui. On continue. Me'ain chokhma me'ita miotze, comme une source de sagesse procède d'eux, ou mekor chaim imam imatze, et c'est chez eux que se trouve la source de la vie, ve'en hosher ve'en salmavet, et il n'y a ni obscurité ni ombre, ve'en hisaron ve'en mavet, ni manque ni mort, ashrei shasher bahem et arev, heureux l'homme qui peut se mêler à eux, l'Eid Kadesh, Bigdushatam, la Boker, Velaerev, pour être sanctifié de leur sainteté, matin et soir, l'Ikro, Chedavid, l'Ikrat, Ma'alacham, pour invoquer, comme David, la rencontre de leur Ma'alach, c'est pas le Ma'alach, Ma'alachim, c'est de leur structure. Barichu Hashem, Ma'alacham. Bénissez celui qui est Hashem, vous, ses anges. La deuxième royauté, plus bas, c'est l'armée des cieux, les corps célestes. Et les êtres vivants de la Merkava qui ont des paupières pleines d'yeux. C'est joli ça. Ils sont à droite et à gauche, ils vont et ils viennent. Tout ceci désigne les mouvements de dit Pashtut et de Tshuva et de Shiva, de comment dire en français, les mouvements d'expansion et de retour qui font la structure du rythme du monde. Et Omdim Berum Olam Nitzavim, et ils se tiennent dans les hauteurs du monde. Berofanim Inasu Leomatam, et ceux qui sont chargés de la circulation des sphères célestes se hausse à leur hauteur, ou l'ishtahavot l'ishrinatra megamatam, et leur intention est de se prosterner devant ta présence. C'est-à-dire, ici, l'idée qui est exprimée, c'est que le mouvement des corps célestes est en réalité un mouvement de prosternation devant la majesté de la souveraineté divine. Dogle revabot hayalim hayalim. Dogle Revabot, ça veut dire les milliards, slicha, digle, hein, j'ai dit doglé, les milliards de drapeaux, d'étendards des forces armées, kulam, tarkemonim, verabe peralim, tous sages et capables d'activité, aolim aharem shemesh beyareach, et ce qui monte derrière eux, c'est la lune et le soleil. Chacun perd son endroit à exigence de briller. La haine, c'est à eux que s'adjoignent toutes les étoiles de lumière, anetudim, les mêmes chalot, rabot, velamaor, qui sont destinées aux différentes souverainetés dans le temps, les mêmes chez les tayom, les mêmes chez les talayla, les saisons et aux luminaires. Alehem ilavu tzva shamaim, c'est à eux que s'adjoigne l'armée des cieux, Vehamaïm, Asher Me'al HaShamaïm, et les eaux qui sont au-dessus des cieux, Dorshim La'avod, Avodat Memshalto, il recherche le service de sa souveraineté, Ishish Mimelarto, chacun suivant son travail, son service, Ve'elam Omershol Ve'elomokesh, et il n'y a pour aucun d'entre eux de piège, de trébuchement et de piège, Ve'enbaem Niftal Ve'ikesh, et il n'y a pas de rébellion ou de d'entêtement. Notnim Reshut Zelazé, ils se donnent l'un à l'autre la permission de prendre à son tour le service, Umkabelim Reshut Zemizé, et ils reçoivent l'un de l'autre la permission, Yahad Yaronu Isukulam, c'est ensemble qu'ils chantent et qu'ils élèvent leur voix, Beshem Hashem El Olam, au nom de celui qui est le Dieu du monde. Velahem, Kara Meshorer Bemikraav, et c'est d'eux à eux et c'est à eux que fait allusion le chantre dans les textes en disant Baruchu Hashem Kol Tzevaav, que toutes ces armées bénissent celui qui est Dieu. Bien, je crois qu'on va s'arrêter là. Et alors, je souhaite à vous tous Hatima Tova. Je vous rappelle donc que nous aurons une nuit d'études à Hoshana Rabba qui commencera à 8h30. Et, à 10h, oui, j'ai dit 8h30. À 10h, et nous finirons la nuit à l'office du Kotel. Pour ceux qui le désirent, il y a l'office des Slichot dimanche matin avec le Kippour à Mayanot à 4h30. Et le Kanidré commencera, le Kanidré, c'est-à-dire le commencement de Kippour, c'est 5h-5. Oui, bien sûr.
Sur le premier paragraphe, on voit la capacité de l'homme de pouvoir dire Kadosh et Baruch.
À la fois, oui.
Et pas pour les anges.
C'est-à-dire, les anges ne sont que dans la dimension de la transcendance, les créatures que dans celle de l'immanence, et Israël allie, unifie ces deux dimensions, comme nous avons vu tout à l'heure.
Les phrases qui se reproduisent à la créature, même si c'est Israël.
Oui, c'est le niveau, c'est exact ce que tu dis. Mais le niveau où Israël se range parmi les êtres d'en bas. Mais au niveau du service, alors il est entre. C'est-à-dire, il y a ici, je prends un terme très important, il y a les êtres d'en haut, il y a les êtres d'en bas, et il y a Israël qui est capable de faire le lien entre les deux. Peut-être nous terminerons là-dessus, c'était à propos de l'expression qu'a employée la Torah dans Vezot Abracha, à propos de Moïse. Et que nous avons commencé à étudier ce verset hier dans le cours de Parasha, on l'appelle Isha Elohim. Il y a un midrash extraordinaire que je voudrais vous expliquer. J'ai expliqué une fois il y a quelques années. Et que le Maharal reprend d'ailleurs dans Gevurat Hashem. C'est ceci. Le midrash dit, qu'est-ce que ça veut dire Isha Elohim, homme de Dieu? Le midrash dit, Chetio ulmata ish, Chetio ulmaala Elohim. La moitié inférieure, homme, la moitié supérieure, Dieu. C'est un midrash extraordinaire. Donc, comment comprendre ça? On s'en va tout de suite à l'église avec ça. Vous pouvez remarquer ça. Et alors, en fait, il y a une lecture du midrash, de ce midrash d'après la Kabbalah, qui nous fait comprendre exactement de quoi il s'agit. Vous rappelez la nomenclature des niveaux de l'être d'après le Kuzari. Il y a le domaine, l'être inerte, qui se dit silencieux. Ensuite, il y a le tsomeach, qu'on traduit par le végétal, mais avec le bruissement de la verdure. Zomer, siar. Siar, c'est la végétation, et siar, c'est le murmure. Okay? Ensuite, il y a le chai, le vivant. Le chai amdaber, le vivant parlant, c'est-à-dire l'homme, et le navi, le prophète. Vous vous rappelez de ces niveaux. Et, voilà ce que je voulais indiquer. Le niveau le plus supérieur qui est connu, c'est le niveau de l'homme, qui est appelé chai amdaber, le vivant parlant. Mais il y a un niveau plus haut, qui est le Navi. C'est celui qui parle la parole de vérité. Et alors, voilà comment il faut comprendre ce midrash. Chetio, sa moitié inférieure et plus bas l'homme. Chetio, sa moitié supérieure et plus haut Dieu. Je traduis en hébreu. Chetio, ulmata ish. Sa moitié est en bas l'homme. Chetio, sa moitié est en haut Dieu. C'est-à-dire, il est entre Dieu et l'homme. C'est l'identité du prophète. Ça ne veut pas dire qu'il est à moitié Dieu, à moitié homme. Vous avez compris ? C'est rien. Voilà, tu le lis. Le Midrash veut le dire deux fois. Une fois sans virgule, une fois avec virgule. Chetio no mata ish, chetio no mata elokim. Deuxième formule, chetio no mata ish, chetio no mala elokim. Et voilà. Vous voyez comme c'est simple, finalement. Alors, c'est exactement ce qu'indique Judas Lévi entre le niveau de l'homme qui parle mais qui ne sait pas parler et le niveau de Dieu, il y a le prophète qui est le médiateur entre Dieu et l'homme. Ça ne veut pas dire qu'il est à moitié Dieu, à moitié homme. Ça veut dire qu'un côté de son être est du côté de Dieu et qu'un côté de son être est du côté de l'homme. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Je crois qu'en utilisant ce midrash, vous pourriez passer une thèse de doctorat de théologie qu'on pourrait formuler ainsi. Qu'en est-il de l'incarnation? Je répète, c'est très simple. La lecture habituelle du Midrash, et c'est un Midrash qu'on évite de citer parce qu'on a peur des théologies, c'est « Chetiol Mataïch », sa moitié inférieure l'homme, « Chetiol Marla Elokim », sa moitié supérieure Dieu, inouï. Okay, et la lecture que je viens de vous donner, sans rien changer, c'est « Chetiol », sa moitié, « Ulmata Ish », et en bas l'homme, « Chetiol », sa moitié, « Ulmala Elokim », et en haut Dieu. Réfléchissez à ça. Ça veut dire que par tout son être, il fait partie du monde des hommes, mais par tout son être, il est dirigé du côté de Dieu. Alors je pense que c'est ces choses-là que les premiers chrétiens voulaient exprimer, mais ils l'ont exprimé à leur manière, à une manière qui est assez rapidement devenue de forme idolâtre. Je vais raconter une anecdote. Je me trouvais, il y a très très longtemps, quand j'habitais la France, je m'occupais des étudiants juifs, et je me trouvais à un camp international des étudiants juifs, regardez l'humour du langage, camp international des étudiants juifs, et qui se trouvait en Hollande. Et là-bas, il y avait une délégation qui est partie à un camp universel des étudiants en Yougoslavie. Et alors, je me suis lié d'amitié avec un des responsables des étudiants en Yougoslavie, un non-juif, qui m'a raconté son histoire. Il était marxiste, mais il était chrétien, devenu athée et devenu marxiste. Et puis alors il m'explique, vous comprenez, toutes ces histoires de la Bible, là, qu'est-ce que ça peut me faire en moi ? Abraham, Sarah, Rivka, toutes ces histoires, c'est des histoires de votre famille. Et comment, et j'ai très bien compris, comment lui, Yougoslave, allait rentrer dans une histoire pareille. Et, comme disent les protestants, c'est le patois de Canaan. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression des théologiens protestants. J'ai très bien compris ça. Il me dit, je ne peux pas croire des choses pareilles. Ça, c'est des histoires de tribus exotiques. D'un autre côté, ça me fait comprendre avec beaucoup d'admiration ce qui s'est passé dans le monde chrétien. Il y avait des hommes et des femmes de peuples complètement étrangers à cette histoire de famille qui se sont mis à croire à ça. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est quelque chose d'énorme et dont on ne se rend pas compte. Et imaginez, un homme de Scandinavie. Qu'est-ce qu'il a à voir avec l'histoire de Joseph et de Judas, okay? Et pourtant, il prie là-dedans, il croit là-dedans. C'est inouï. Vous rentrez dans une église des Carpates, on vous parle du Dieu d'Israël. On s'est tellement habitué qu'on ne se rend pas compte. C'est clair. Et au point, ils sont tellement habitués qu'ils croient qu'Israël, c'est eux, en plus. Okay? Alors, j'étais très admiratif, je l'ai regardé, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Comment vous voulez que je croie dans des choses pareilles? Alors, que ce soit ma foi. C'est une histoire de tribale. Et ça m'a rappelé comment les musulmans parlent de cela. Et les musulmans ont une expression pour dire ce que nous appelons le Midrash, que seuls les juifs peuvent comprendre, c'est leurs histoires de famille. Ils appellent ça les israéliyats, c'est de l'arabe. Les choses qui concernent Israël, israéliyats. Ça veut dire, quand ils arrivent, dans leurs études même du Coran, à des choses qui sont tellement particulières à la famille des juifs, que seuls des juifs au courant du secret de la grand-mère et des histoires de la cousine peuvent comprendre, okay? Alors ils disent à leurs fidèles, ça c'est israélien, c'est des choses... Okay? Alors ça m'a fait comprendre ce que les premiers apôtres ont expliqué à leurs catéchumènes, c'est comme ça qu'on dit, okay? Quand ils parlaient de leur foi, ils disaient c'est des mystères. Qu'est-ce que ça veut dire c'est des mystères? Ça veut dire c'est des choses que seuls les juifs peuvent comprendre. Pour vous c'est mystérieux. J'explique, il y a deux termes qui sont très différents. Le terme de mystère et le terme de secret. Dans la foi juive, il n'y a pas de mystère, il y a des secrets. Mais qu'est-ce que c'est un secret? c'est une connaissance qu'on n'a pas, mais qu'à certaines conditions on peut avoir. Tandis qu'un mystère, c'est une connaissance qu'on ne peut pas avoir. Vous voyez comment ça s'est différencié. Alors, ça, l'une chose m'a fait comprendre l'autre. C'est-à-dire, les premiers apôtres, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Trinité, Vierge, Incarnation, tout ça, sont des thèmes de l'identité de l'histoire d'Israël qui ont été poussés à la maquette de l'idolâtrie, si j'ose dire, mais qui sont l'histoire des patriarches. Et alors, quand les païens leur demandaient, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Vous ne pouvez pas comprendre. Il n'y a que les juifs qui comprennent. Pour vous, c'est des mystères. Vous avez compris un peu ce que je veux dire ? Je crois que c'est ça qui s'est passé. Okay ? C'est clair ? Alors, tout ça a été formulé très rapidement, bien que ça ait pris du temps, dans la mentalité du grec, du latin, et c'est ainsi que la Bible a été dite aux nations dans une formulation idolâtre, d'origine idolâtre, disons plus exactement païenne. Est-ce que c'est clair ce que je dis ? Alors je crois que, puisque nous sommes dans un temps où enfin, au bout de 2000 ans, on commence à se rencontrer, pendant 2000 ans on ne s'est pas parlé. Les chrétiens et les juifs ne croyaient pas qu'on ne s'est jamais parlé. On appelait ça des disputations, d'ailleurs. Et maintenant, ça commence un peu, hein, un peu. Et alors, je crois que les juifs ont le devoir d'aider les chrétiens à comprendre en quoi ils croyaient, c'est-à-dire à les dépaganiser. Et ils s'apercevront qu'ils croyaient dans l'histoire d'Israël. Et que c'est ça qu'ils ont exprimé comme objet de foi au goyim à sauver, qu'Israël est le sauveur du monde, et finalement, ça s'est caricaturisé en chose devenue incompréhensible, mystère. Pourquoi j'ai parlé de tout ça ? De quoi on est parti ? Hein ? De quoi on est parti ? Bon, je vous ai parlé des étudiants, mais d'où on est sorti ?
Israël.
Ah, Israël, okay. Alors, je crois que c'est un peu cela que le christianisme primitif voulait dire en disant complètement Dieu d'un côté, complètement homme de l'autre. Si vous savez, les tomes de bibliothèques, de théologie qui ont été écrites sur ces choses incompréhensibles dans le monde chrétien, vous n'avez aucune idée, okay, sur ce dogme de l'incarnation, combien de schismes il y a eu, pendant combien de temps les églises chrétiennes se sont étripées, entregorgées, déchirées sur des nuances de choses incompréhensibles, okay, alors qu'il s'agissait d'un midrash où on avait mal mis la virgule. Alors, on se donne rendez-vous à la rentrée, selon tout.